Freud, une vie de rêve. Une émission proposée par Raphaël Antoven.
Être ou ne pas être, là est la question. Est-il plus noble de subir la fronde et les flèches de la fortune qui m'outrage ou de s'armer contre un océan de peine et d'y mettre un terme en se révoltant ? Mourir. Dormir, rien de plus. Et dire que par ce sommeil nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le legs de la chair, c'est là un dénouement qu'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir. Dormir. Dormir. Peut-être rêver. Oui, là est le hic. Car quel rêve peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort quand nous sommes débarrassés de l'étreinte vitale ?
Quand Freud entreprend, au printemps 1896, ce qu'il appelle son auto-analyse, il n'est encore pour l'essentiel qu'un neurologue à contre-cœur, maussade, marié, père de 5 enfants, qui rédige une monographie laborieuse sur les paralysies cérébrales, tandis que l'antisémitisme viennois le prive obstinément d'une carrière universitaire à sa mesure. Heureusement, après une longue agonie, son père meurt le 23 octobre, léguant à son fils la seule tâche d'apprendre à lui survivre, c'est-à-dire à le surpasser. Freud comprendra plus tard qu'il est aussi dangereux de gagner les batailles oedipiennes que de les perdre. Mais pour l'heure, il s'analyse lui-même, dans la chaleur, le surmenage, l'indolence et le découragement. Il se remémore la nanny catholique de son enfance, la nudité à peine entrevue de sa mère, ses désirs de mort à l'encontre de son frère cadet. Il exhume ses souvenirs, il note ses lapsus, il ne rate aucun de ses actes manqués. Il va voir Oedipe au théâtre, il innocente la figure paternelle de toute tentative de séduction et surtout, surtout, il raconte ses rêves. « Tout bouillonne, dit-il, et fermente en moi. Je ne fais qu'attendre de nouvelles poussées. Je me sens comme dans un cocon dont Dieu sait quelle bête va sortir. » La psychanalyse est née d'un deuil capital qui, comme un caillou jeté dans l'eau, grandit à mesure qu'il s'éloigne. Tel Hamlet, qu'une maïotique posthume transforme en rédempteur mélancolique, Freud s'est servi de la mort de son père pour accoucher lui-même de lui-même.
Berggasse 19. Cher Wilhelm, me voilà de retour depuis hier matin, dispo, de bonne humeur, appauvri, sans travail pour le moment, et c'est à toi que j'écris en premier. Il faut que je te confie tout de suite le grand secret qui, au cours de ces derniers mois, s'est lentement révélé. Je ne crois plus à ma théorie des névroses. Dans chacun des cas, il fallait accuser le père, et ceci sans exclure le mien, de perversion. L'incidence de la perversion, en ce cas, devrait être infiniment plus fréquente que l'hystérie qui en résulte. Maintenant, je ne sais plus où j'en suis, car je n'ai encore acquis de compréhension théorique ni du refoulement, ni du jeu de force qui s'y manifeste.
Narcisse veut s'embrasser. Freud, lui, essaie de se comprendre. Christophe Colomb découvre l'Amérique. Freud, lui, explore l'Atlantide et les lieux qui restent ensevelis. Enfin, Descartes marche droit, d'un pas ferme et assuré sur l'autoroute qui conduit à la conscience. Quand Freud, lui, zigzague et constate en dormant qu'on ne marche qu'à tâtons sur la voie royale qui mène à l'inconscient. D'ailleurs, c'est bien le problème. Pourquoi la psychanalyse ? Pourquoi ces contorsions de l'âme quand on a des salles de gym ? Pourquoi chercher les causes quand on peut soigner les effets ? Pourquoi descendre aux enfers quand on a les paradis artificiels ? Pourquoi lire Freud quand on peut manger Prozac ? Honnêtement, je ne sais pas. Mais c'est à répondre entre autres à ces questions que nous allons passer l'heure qui vient en compagnie de Marie Moscovici, psychanalyste comme il se doit, qui anime la revue L'Inactuel, auteur de plusieurs préfaces à l'œuvre de Freud parue chez Gallimard.
Si j'étais déprimé, surmené, et que mes idées fussent brouillées, de semblables doutes pourraient être considérés comme des indices de faiblesse. Mais comme je me trouve justement dans l'état opposé, je dois les considérer comme résultant d'un honnête et efficace travail intellectuel et me sentir fier de pouvoir, après être allé aussi loin, exercer encore ma critique. Ces doutes constituent-ils seulement une simple étape sur la voie menant à une connaissance plus approfondie ? Je continue ma lettre par des variations sur les paroles d'Hamlet. « To be in readiness », garder sa sérénité, tout est là. Quelques mots encore. Dans cet effondrement général, seule la psychologie demeure intacte. Le rêve conserve certainement sa valeur et j'attache toujours plus de prix à mes débuts dans la métapsychologie.
J'allais vous dire, puisque vous avez eu l'excellente idée d'inviter quelqu'un comme moi, qui est psychanalyste depuis longtemps, à parler de ce livre, L'interprétation des rêves, évidemment, ce qui m'est venu immédiatement, c'est pourquoi il fait ça.
Marie Moscovici.
Je me trouve donc dans la situation de vous interviewer. Qu'est-ce qui vous a suffisamment mobilisé dans ce livre pour que vous mobilisiez à votre tour une psychanalyse?
Oh, il y a deux catégories de raisons, je peux vous répondre, docteur.
Ça m'intéresse beaucoup.
J'entends bien.
Et je ne suis pas docteur.
Mais je vais vous répondre quand même.
Oui.
Disons, il y a deux catégories de raisons. La première, c'est que c'est un texte étonnant, baroque, surréaliste. C'est-à-dire qu'il fourmille de rêves. Il n'y a que la matière du rêve pour être aussi démente. Et donner, je crois, un tel plaisir de lecture. J'ai lu l'interprétation des rêves une fois, comme on peut lire le recueil de rêves qu'avait fait, par exemple, Michel Léris.
Oui.
Quelque chose comme ça. Donc, c'est un objet littéraire à part entière. Et la seconde, c'est parce que ce texte complètement baroque me donne parfois le sentiment de disposer d'un arsenal théorique, de vouloir légiférer sur une réalité qui échappe à la loi, malgré tout. Et donc j'avais envie, moi, non seulement de donner envie de le lire, mais aussi de vous demander si effectivement l'interprétation des rêves est véritablement une théorie ou si c'est un système plus souple. Voilà.
Eh bien, vous permettez qu'on commence par ça, parce que ça m'intéresse beaucoup, votre réflexion. D'abord, vous avez employé le mot légiférer, et je suis pas du tout d'accord là-dessus. C'est-à-dire, il construit une théorie, il ne légifère pas. Et d'ailleurs, il y a ici ou là, j'ai fait exprès de ne pas prendre véritablement des notes, pour pas me préparer trop, quoi. Parce que ce qui m'intéressait, c'est là où vous alliez plutôt me mener qu'autre chose. Où il dit, je n'ai pas la propension à achever quelque chose qui est inachevé. Je pourrais vous trouver la page, vous voulez que je la cherche?
Non, je crois que c'est pas la peine, ça se trouve à la fin. C'est-à-dire,
ça
c'est le moment.
Ça se trouve à la fin, exactement.
Ça se trouve
et
à la fin.
Je vais m'apercevoir.
C'est le moment où Freud se fait à lui-même, alors qu'on est au premier livre important, Naissance
oui,
de la
absolument.
Psychanalyse, 1900, enfin 1899, mais daté 1900, c'est pas innocent. Et on est au début de la psychanalyse. Eh bien, on trouve dans ce livre, à la toute fin du livre,
oui,
la totalité des objections que le siècle entier fera ensuite à la psychanalyse formulée par son père fondateur.
Eh bien, vous me retirez les mots de la bouche, puisque c'est exactement dans ce livre, comme ça pourrait être aujourd'hui, bien que le temps ait passé, que le siècle a fait de la psychanalyse tout ce qu'il en a fait, on est dans les mêmes objections de la part des autres, et on est dans la même... dans le même désir, non pas de répondre d'avance aux objections, mais de savoir exactement quelles objections il y a. Et Freud a tout à fait fait ça. Et la phrase sur l'achevé et l'inachevé, dont je vois que vous l'avez remarqué tout autant que moi, pour la énième fois, et que je pourrais presque mettre en exergue, de Freud, est une phrase absolument capitale et pas du tout formelle et pas du tout pour se prémunir ou se défendre d'avance des attaques qu'il va recevoir.
En même temps, pour en venir au cœur de l'interprétation des rêves, il y a quand même une méthode qui est mise en œuvre dans l'interprétation des rêves et un principe qui lui semble ne jamais devoir être contredit, qui est que le rêve est toujours, quoi qu'il arrive, l'accomplissement d'un souhait.
Oui, la réalisation d'un désir.
La réalisation d'un désir.
Oui, c'est pareil. Ça c'est vrai, oui, tant et si bien qu'il bataille dans le livre pour expliquer longuement, ou pour justifier longuement, que même les rêves désagréables, les cauchemars, tout ce qui apparaît comme le contraire de la réalisation d'un désir, est quand même la réalisation d'un désir.
Dans la constitution sexuelle de bien des êtres humains, il y a une composante masochiste qui est apparue par le renversement, dans son contraire, de la composante agressive, sadique. Il est absolument évident que ces personnes peuvent avoir des rêves de contre-souhait et des rêves de déplaisir, lesquels, malgré tout, ne sont rien d'autre pour elles que des accomplissements de souhait, la satisfaction de leur penchant masochiste.
un jeune homme qui, dans ses premières années, a beaucoup tourmenté son frère aîné, auquel il était homosexuellement attaché, rêve à présent, après avoir radicalement changé de caractère, un rêve constitué de trois parties. 1. Comment son frère aîné l'asticote. 2. Comment deux adultes se font mutuellement des grâces dans une intention homosexuelle. 3. Le frère a vendu l'entreprise dont lui s'était pour son avenir réservé la direction. De ce dernier rêve, il s'éveille avec les sentiments les plus pénibles. Et pourtant, c'est un rêve souhait masochiste, dont la traduction pourrait être « Ce serait bien fait pour moi si mon frère m'infligeait cette vente en punition de tous les tourments qu'il a endurés de moi. »
C'est-à-dire que ce que je veux à l'état de veille, et même ce que je veux une fois qu'on interprète, ce n'est pas ce que je veux au sens de l'inconscient. D'ailleurs, l'inconscient ne dit pas « je veux
hein. ». Non, l'inconscient dit quoi ? Ça veut ?
L'inconscient dit pas, mais ça veut.
Il y a du vouloir,
mais ça
quelque
veut,
part.
Ça veut. Il y a du désir.
Il y a du désir, c'est ça en fait l'idée. C'est
il y a,
que,
il y a du désir.
Ce qu'on appelle volonté n'est en fait une espèce de concrétion du désir.
Il n'y a pas de volonté de l'inconscient.
Voilà. Donc est-ce qu'on peut parler de volonté de façon générale à ce moment-là ?
On peut parler de volonté du conscient, absolument. Simplement, en gardant non seulement à l'esprit, mais pour ce qui est de Freud, c'est pas une idée intellectuelle abstraite comme ça dans le ciel des idées. Mais savoir sentir le fond et l'essentiel de sa découverte, qui est le rôle capital de l'inconscient, et comment l'univers de l'inconscient est inatteignable, pas pour des raisons, c'est pas ineffable comme des religieux.
C'est pas un absolu, oui.
Pas du tout, justement.
C'est
pas
un relatif. Hein.
Tout à fait relatif, mais c'est en tout cas inatteignable, et on pourrait même dire à jamais inatteignable, mais ça n'enlève rien à l'existence du conscient, qui peut dire « je veux, je sais », ni au préconscient, qui est quelque chose d'assez important, même si actuellement ça apparaît comme des gros mots, tellement on a l'air de les avoir usés, mais qui est celui qui met en contact ces univers qui ne sont pas le même univers. Il dit quelque part une chose capitale, puisqu'elle met tout de suite en jeu un élément fondamental de tout ça, bien que Freud n'ait pas fait une théorie du langage, comme vous savez. Lacan est venu bien après faire une théorie du langage. Freud dit quelque part, c'est comme si on avait deux réalités qui ne parlent pas la même langue. Et si ma formule est inexacte, il faudrait que je vérifie et que je vous le dise, mais je crois quand même que l'idée est fondamentalement celle-là, ça ne parle pas la même langue. Mais il faut le savoir.
Donc il est face au rêve, comme Champollion face à ses hiéroglyphes.
Oh, il le dit en même temps, je crois. Hein, il est face aux hiéroglyphes. Mais vous savez que Freud s'intéresse aux hiéroglyphes comme image. Et il s'intéresse au moins autant, si ce n'est plus, à l'invention de l'écriture alphabétique qui dit... Que ça, il le dira beaucoup plus tard encore. Il le dira dans l'Homme Moïse et la religion monothéiste, qui est son dernier livre, hein, juste avant sa mort, que l'écriture alphabétique montre qu'il y a un langage.
Donc ça voudrait dire que les rêves sont l'alphabet dont l'analyse serait éventuellement la syntaxe ?
Non, je dirais pas ça comme ça. Les rêves sont peut-être les hiéroglyphes dont l'analyse cherche l'alphabet, par exemple.
Je rêve que, une dame au bras, j'arrive devant ma maison. Une voiture fermée attend là. Un monsieur se dirige vers moi, montre ses papiers d'agent de police et m'invite à le suivre. Je le prie seulement de me donner le temps de mettre de l'ordre dans mes affaires. Croyez-vous que ce puisse être mon souhait d'être arrêté ?
Certainement pas, je dois l'avouer. Savez-vous peut-être sous quelle inculpation vous fûtes arrêté ?
Oui, je crois pour infanticide.
Infanticide ? Vous savez pourtant que ce crime, seule une mère peut le commettre sur son nouveau-né.
C'est exact.
Et dans quelles circonstances avez-vous rêvé ? Que s'est-il passé la veille au soir ?
J'aimerais mieux ne pas vous le raconter, c'est une affaire délicate.
J'en ai besoin pourtant, sinon il nous faudra renoncer à l'interprétation de ce rêve.
Eh bien, écoutez, je n'ai pas passé la nuit à la maison, mais chez une dame qui compte beaucoup pour moi. Quand nous nous sommes réveillés le matin, il se produisit de nouveau quelque chose entre nous. Puis, je me rendormis et rêvais ce que vous savez.
C'est une dame mariée?
Oui.
Et vous ne voulez pas faire un enfant avec elle?
Non, non, cela pourrait nous trahir.
Vous ne pratiquez donc pas le coït normal?
Je prends la précaution de me retirer avant l'éjaculation.
Puis-je supposer que vous avez exécuté cette prouesse plusieurs fois au cours de la nuit, et qu'après l'avoir répétée le matin, vous avez été quelque peu incertain de l'avoir réussi?
Cela se pourrait bien.
Alors votre rêve est un accomplissement de souhait. Il vous procure la tranquillité d'esprit de ne pas avoir fait d'enfant, ou ce qui est à peu près la même chose, d'avoir tué un enfant.
Est-ce que vous vous souvenez d'un passage? Et figurez-vous, je l'ai cherché pour vous le dire et même pour vous le lire, mais dans la façon dont j'ai pris ça, votre proposition, bizarrement, je veux dire, il faudrait peut-être que je retourne chez un psychanalyste pour analyser la chose, je n'ai pas retrouvé ce passage. C'est le passage où il parle du rébus. C'est-à-dire, il y a des images, des figures, etc. Et en dessous, chacune, une fois qu'on cherche la solution du rébus, on met des syllabes. Et ça fait une phrase. Donc, si vous voulez, ça se promène comme ça, entre les images du rébus et les syllabes, qui vont non pas traduire, mais faire la phrase du rébus.
D'une certaine façon, l'interprétation des rêves, quoiqu'elle livre une méthode de connaissance et de compréhension des rêves, se donne d'emblée comme une méthode incomplète. Fondamentalement incomplète.
On l'a dit au début avec
Kinachev. Et ça, c'est très
mais
important.
Mais la psychanalyse aussi. Alors, c'est pour ça que ce livre est si passionnant et que je suis, enfin pour moi, et que j'aimerais bien qu'il en passionne d'autres, ce qui est fort difficile, parce que c'est un livre très difficile. Alors, est-ce que c'est parce que je le lis depuis 35 ans que je le trouve difficile? C'est pas exclu. Ou est-ce que ce n'est pas parce qu'il est difficile? Il est formidablement difficile parce qu'il est foisonnant. Et d'une certaine façon, Freud y ouvre toutes les portes qu'il va ouvrir et explorer après. C'est pas que tout soit donné dans ce livre, mais c'est que toutes les portes commence à être poussée, absolument toutes. Vous dites à juste titre qu'il fonde, qu'il légitime, etc., une méthode d'interprétation des rêves. Oui. Mais il fait beaucoup plus que ça. Il y fonde, à mon sens, toute la démarche psychanalytique, y compris dans sa pratique. Vous vous souvenez qu'il parle à propos du rêve, de suivre toutes les chaînes associatives, etc. Or, suivre toutes les chaînes associatives, c'est pratiquement ce quoi, à quoi on invite tous les parents sur le... J'ai dit parents au lieu de patients, c'est la fatigue, et peut-être mieux encore, sur un divan, n'est-ce pas? On énonce ou on n'énonce pas la règle de dire tout ce qui vient à l'esprit sans rien omettre, etc. La fameuse règle de la libre association, dite règle fondamentale... Elle est fondamentale comme règle de fonctionnement.
Et se elle donner prend comme règle de fonctionnement l'association libre...
Oui, c'est drôle, hein, comme paradoxe.
C'est par conséquent renoncer d'une certaine façon à toute règle comme règle. C'est se donner pour règle d'une certaine façon de ne pas en avoir.
En analyse.
En analyse, j'entends bien.
En analyse. Mais c'est une règle d'airain. Si vous avez ou si vous aviez une expérience analytique, vous le saurez ou vous le sauriez. C'est une règle... impossible à suivre. En revanche, c'est une règle de fonctionnement qu'on vous propose et avec laquelle on va, d'une certaine façon, se battre tout du long. Donc, elle n'est pas que pour l'interprétation du rêve, mais dans le livre sur l'interprétation du rêve, elle est déjà là, avec toute l'idée de suivre les chaînes associatives, à partir du moindre détail. Par exemple, l'insistance sur le détail, hein, pas sur la grosse, massive théorie.
Ce qui veut dire, par exemple, que des rêves peuvent être convertis. Un rêve drôle...
Oui, peut-être absolument en
fait,
sinistre.
Peut-être en fait découvrir une vérité entre guillemets sinistre.
J'étais couché dans mon lit. Un monsieur connu entra. Je voulus allumer la lumière, mais je ne le pus pas. J'essayais et réessayais de le faire, en vain. Là-dessus, ma femme descendit du lit pour venir à mon aide, mais elle non plus ne put rien faire. Mais se sentant gênée devant ce monsieur à cause de son négligé, elle renonça finalement à poursuivre et se recoucha dans le lit. Tout cela était si comique que je ne pus m'empêcher de rire, d'un rire épouvantable. Ma femme dit « Qu'as-tu à rire? Qu'as-tu à rire ?» Mais moi, je continuais à rire jusqu'à ce que je me sois réveillé. Ce rire m'a secoué.
Considéré analytiquement, le rêve paraît moins drôle. Le monsieur connu qui entre est dans les pensées du rêve l'image de la mort, celle de la grande inconnue. Or, le vieux monsieur, souffrant d'artériosclérose, avait le jour précédent des raisons de penser au fait de mourir. Le rire incoercible prend la place des pleurs et des sanglots à l'idée qu'il lui faut mourir. Et c'est la lumière de la vie qu'il ne peut plus allumer. Cette triste pensée peut être rattachée à des tentatives de coït récemment envisagées, mais ratées, dans lesquelles l'aide de la femme en négligée n'avait là non plus servi de rien. Il remarqua que pour lui, les choses étaient sur leur déclin. Le travail de rêve a su transformer la triste idée de l'impuissance et du mourir en une scène comique et les sanglots en rire.
Ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve, dit-on pour se rassurer. Comme si du coup, ça n'était rien du tout. Comme si le rêve n'existait pas, comme si rêve et réalité, c'était le jour et la nuit. Ce n'est qu'un rêve, mais c'est déjà ça. Il y a le rêve de l'injection faite à Irma, le rêve du monsieur connu qui entre dans la chambre, le rêve du rire et les rêves dégoûtants, le rêve du verre d'eau, le rêve des animaux, du fils perdu, de la fille unique, de l'oncle Joseph, de la loge à l'opéra, du piano qu'on accorde, des hannetons qui s'écrasent, des garçons qui se chamaillent, le rêve du cyclamen et du marchand de légumes, de la femme qui attend, du mari qu'on arrête, les rêves de dette et de redingote, et les rêves des enfants, des rêves solaires, des rêves aqueux, des rêves absurdes, agoraphobes et même des rêves d'ambitieux. L'interprétation des rêves est un festival, une orgie logique, une bacchanale réussie où tout le monde condense. C'est le diable dans la boîte qui montre le bout de son nez malgré le cadenas des censeurs. Le rêve est comme un bal masqué. Ce qu'on redoute nous fait soudain mourir de rire. Ce qu'on refoule devient extravagant. Le sexe se transforme en chapeau de paille et l'orgueil à la gueule d'un jet d'urine. Le rêve est comme le fou des pièces de Shakespeare. C'est en délirant qu'il a raison et c'est en excrément qu'il dit vrai.
La pensée « mais ce n'est qu'un rêve » vise bel et bien pendant le rêve la même chose que ce qu'elle est censée énoncer au théâtre dans la bouche de la belle Hélène d'Offenbach. Elle veut rabaisser la significativité de ce qui vient d'être vécu et permettre de tolérer ce qui va venir. Elle sert à endormir une certaine instance qui, à ce moment-là, aurait tout motif de se mettre en mouvement et d'interdire la poursuite du rêve ou de la scène. Mais il est plus commode de continuer à dormir et de tolérer le rêve parce que ce n'est malgré tout qu'un rêve. Je me représente que la critique méprisante « mais ce n'est qu'un rêve » apparaît dans le rêve quand la censure, qui ne dort jamais tout à fait, se sent prise au dépourvu par le rêve qui a déjà été admis. Il est trop tard pour le réprimer. Aussi affronte-t-elle par cette remarque l'angoisse ou la sensation pénible soulevée par le rêve. C'est donc une manifestation de l'esprit d'escalier de la part de la censure psychique.
Donc, il y a une infinité de rêves.
Oui.
Et en même temps, il y a quand même une tension dans ce livre, puisque cette infinité de rêves est résumée donc sous l'idée unique que tous les rêves sont l'accomplissement d'un souhait, laquelle idée unique est tempérée, pondérée et contredite en permanence par l'impossibilité dans laquelle se trouve l'analyste de véritablement interpréter ce souhait de façon univoque.
Absolument. Il y a une précipitation de Freud. Je veux dire, on sent la hâte de cet homme qui, à ce moment-là, a quoi, à peine plus de 40 ans.
Il est né en 56. Il a 40 ans. Au moment où il entreprend la rédaction,
il a 44 ans quand le livre paraît, en 1900. C'est un homme jeune et avec une soif extraordinaire, on le voit, de faire le tour, de livrer tout ça, comme si c'était pressé. D'ailleurs, c'est peut-être pressé, puisque vous savez qu'il avait l'obsession. Il allait mourir tout le temps. Il a des dates pour sa mort.
Et puis l'interprétation des rêves correspond à un moment où Fliss le met en garde contre les méfaits de la tabagie.
Exactement. Et puis il y a la mort de son père qui a eu lieu... Donc, à ce moment-là, au moment où il est... D'où réaction à la mort de mon père. Et puis, il sera harcelé par la mort dans sa tête, jusqu'à son dernier jour, bien qu'il soit mort, après tout, pas si jeune que ça. Il avait quand même 83 ans, je crois. Donc c'est pas non plus un jeune homme qui meurt, mais c'est un homme qui a été obsédé, poursuivi absolument tout le temps par l'idée de la mort.
Un père a veillé pendant des jours et des nuits auprès du lit de son enfant malade. Après que l'enfant est mort, il va se reposer dans une pièce attenante, mais laisse la porte ouverte pour regarder de sa chambre à coucher dans celle où le cadavre de l'enfant est exposé, entouré de grands cierges. Un vieil homme a été engagé pour la veiller et est assis auprès du cadavre, marmonnant des prières. Après quelques heures de sommeil, le père rêve que l'enfant est debout auprès de son lit, lui saisit le bras et lui murmure plein de reproches « Père, ne vois-tu donc pas que je brûle ?» Il se réveille, remarque une vive lueur qui vient de la chambre mortuaire, s'y précipite, trouve le vieux veilleur assoupi, les draps et un bras du cher cadavre brûlés par un cierge qui, brûlant encore, était tombé dessus.
La plainte « je brûle » se rattache à la fièvre qu'avait l'enfant quand il est mort. Et les mots « Père, ne vois-tu donc pas ?» à une autre occasion, inconnue de nous, mais riche en affect. Donc ce rêve, lui non plus, n'est pas dépourvu d'un accomplissement de souhait. Dans le rêve, l'enfant mort se comporte comme un enfant vivant. Il avertit lui-même le père, vient auprès de son lit et le tire par le bras, comme il le faisait vraisemblablement dans ce souvenir où le rêve est allé chercher la première partie du discours de l'enfant. Pour complaire à cet accomplissement de souhait, le père a alors prolongé d'un moment son sommeil. Le rêve obtint la préséance sur la réflexion à l'état de veille parce qu'il pouvait montrer encore une fois l'enfant vivant. Si le père s'était d'abord réveillé et avait alors tiré la conclusion qui le conduisit dans la chambre mortuaire, il aurait en quelque sorte raccourci la vie de l'enfant de ce moment-là.
Cette manière qu'il a de poser en principe, en axiome, que tous les rêves sont l'accomplissement d'un souhait, et ensuite d'interpréter les rêves qui iraient contre cette interprétation comme finalement autant de preuves de l'interprétation qu'il donne, peut être vu de deux manières. La première, c'est quel génie de comprendre que derrière ce que semble dire le rêve, il y a une autre vérité qu'il s'agit de faire apparaître, donc magnifique. Mais on pourrait aussi y voir le modèle, et je vous pose cette question parce que c'est une question que tout le monde se pose et que les gens ont raison de se poser, parce qu'il faut se la poser, le modèle d'une pensée dogmatique, c'est-à-dire d'un système qui ne s'expose jamais à la possibilité de sa propre réfutation. En acceptant la totalité des rêves sous le sceau de cette théorie de l'accomplissement du souhait, est-ce que Freud, d'une certaine façon, ne manque pas la possibilité pour le rêve de signifier autre chose? Est-ce qu'il ne ferme pas la possibilité à une série d'interprétations nouvelles? Je savais que vous ne seriez pas d'accord avec moi.
Mais je ne suis pas d'accord. Je faisais non avec la tête, évidemment, les auditeurs ne voyaient pas ma tête. Freud a eu des comportements dogmatiques, par moments, dans l'histoire du mouvement psychanalytique qu'il a vécu, avec ce que vous savez, c'est-à-dire les exclusions, etc. Personnellement, j'appelle pas ça dogmatique, j'appelle ça ce que lui-même a appelé être unilatéral. Quand quelqu'un fait une théorie, est en train de la chercher, de la découvrir, il faut qu'il s'y accroche, et lui-même dit, et qu'à ce moment-là, il soit unilatéral. Ça ne me choque pas.
C'est pas un aveu, ça ?
C'est l'aveu qu'il l'est, et où il dit pourquoi. Ça ne ferme pas, à mon avis, la voie de la réfutation, parce que les arguments de la réfutation que vous citez ne me paraissent pas relever de réfutation. Ça me paraît relever de quelque chose qui existe dans l'inconscient. Et vous allez pouvoir me dire, vous voyez bien, vous-même, vous fermez toutes les issues en disant ce que vous dites. C'est-à-dire la contradiction, le paradoxe, la reconnaissance de la contradiction. Est-ce que si on décrit un système psychique et même intellectuel extraordinairement contradictoire, on ferme la porte à la réfutation? Tout le monde s'est penché sur la théorie de Popper, vous savez, qui disait...
C'est dans la quête inachevée, je le précise, dans un texte qui s'appelle « La quête inachevée ».
Absolument.
Qui est une autobiographie intellectuelle, finalement.
Oui, oui.
Popper s'en prend à la psychanalyse comme au marxisme. en expliquant que ce sont deux théories qui ne se donnent pas comme falsifiables, donc qui se donnent comme infalsifiables.
Et que donc elles sont fausses.
Et qu'à ce titre, elles sont non pas fausses, mais faibles.
Oui, oui.
Par exemple, c'est le modèle d'un marxiste orthodoxe qui, si on lui dit qu'on ne croit pas au dépérissement de l'État ou à la lutte des classes, vous répondra, mais c'est normal, vous êtes un bourgeois.
C'est ça.
Donc vous renverra à vous-même plutôt que de s'interroger sur la possibilité qu'il puisse se tromper. De la même façon pour un psychanalyste, dirait Popper, je résume très grossièrement à dessein son propos.
Mais c'est assez grossier, Popper.
Mais bon, je résume son propos à dessein comme ça. Pour un psychanalyste, si vous dites que vous ne souffrez pas du complexe d'Oedipe au sens où vous ne voulez rien à votre mère et vous n'en voulez pas à votre père, il vous dira, c'est normal, vous refoulez. Donc, finalement, on n'a pas le choix. Est-ce que le problème n'est pas de décrire un système psychique, comme vous l'avez dit, mais de décrire la psyché comme un système ?
Si on veut, c'est un système, mais l'auteur de cette construction de système la déclare d'emblée, le déclare, ce système, inachevé, inachevable, contradictoire, paradoxal. Là, il ne dit pas que ce n'est pas réfutable. Hein, et j'ai eu le tort de dire il y a une seconde que Popper c'était rudimentaire, je ne sais plus quel adjectif. C'est pas Popper qui est rudimentaire, ce sont ceux qui veulent attaquer la psychanalyse en se servant de cette argumentation de Popper qui sont un peu courts. Le problème, à mon avis, n'est pas de réfuter ou pas la psychanalyse. Mais ne nous trompons pas de terrain. Je vous signale que le Freud, qui est en train de monter sa théorie comme un mécano très 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 compliqué dont des pièces se cassent la gueule, etc. C'est de lui qu'il parle, n'est-ce pas ? Il vous raconte ses contradictions, ses difficultés, ses propres rêves, sa démarche absolument chaotante et par moments chaotique. Donc, enfin, dire qu'à cet endroit-là, il est dogmatique, je ne trouve pas. Je trouve que c'est une démarche d'abord courageuse, ensuite assez fiévreuse. C'est ça qu'il fait.
En même temps, on dit souvent, d'ailleurs c'est un des reproches qu'on peut faire à la psychanalyse, qu'elle est un exercice complaisant. Que finalement, quand on entreprend une analyse, plutôt que de se soigner de façon volontariste, etc., etc., on se complaît dans une douleur qui est accrue du fait même qu'on en parle, qu'on la nomme, qu'on la regarde, qu'on la contemple un peu comme un nombril purulent, qu'on se donnerait l'illusion de nettoyer, alors qu'en réalité, on s'y complaît, on s'y perd, et d'une certaine façon, ça ne nous déplaît pas. Freud, quand il raconte ses rêves, entreprend une démarche singulièrement impudique. Mais en même temps, c'était un homme tout à fait pudique, de la même façon qu'il décrit...
D'ailleurs, il ment la moitié du temps.
Il ment la moitié du temps.
C'est-à-dire au moins par omission.
Alors, donc, non seulement il ment par omission, mais il est pris par la pudeur, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est un homme qui ne raconte ses rêves que dans la mesure où le récit qu'il en fait va au-delà de lui-même. On pourrait appliquer à Freud la phrase que Malraux se donnait pour lui-même. Il disait « Que m'importe ce qui n'importe qu'à moi ?» Quand Freud raconte ses rêves, il va au-delà de lui-même. Il prétend quand même se rendre ailleurs que dans sa propre existence. Quand il raconte ses rêves, de la même façon que Montaigne déclare porter en lui-même la forme entière de l'humaine condition, Freud a une vocation universaliste, non ? Prétend à quelque chose de plus général.
Ça vous ennuie ?
Pas du tout.
Je veux dire, c'est tout l'intérêt de cette démarche.
Dis juste que ça pose un problème dans le passage à la théorie, c'est tout. Je dis juste que ça pose un problème.
Ça pose un problème, mais ensuite il va construire sa théorie. Je suis assez embêtée parce que je ne voudrais pas être mise dans la position d'une psychanalyste qui apprécie énormément l'œuvre de Freud et qui ne pourrait là céder sur rien. C'est pas comme ça que ça se présente.
Un tertre. Sur celui-ci, quelque chose comme des cabinets en plein air. Un banc très long. À son extrémité, un grand trou de cabinet. À l'arrière, tout le rebord extérieur est recouvert de petits tas d'excréments de toutes les tailles et de tous les degrés de fraîcheur. Derrière le banc, un buisson. J'urine sur le banc. Un long jet d'urine rince et nettoie tout. Les plaques d'excréments se détachent facilement et tombent dans l'ouverture. Comme si à la fin, il restait encore quelque chose. Pourquoi dans ce rêve n'ai-je ressenti aucun dégoût ? Parce que, comme l'analyse le montre, les pensées les plus agréables et les plus gratifiantes avaient collaboré à la production de ce rêve. Dans l'analyse, me viennent aussitôt à l'idée les écuries d'Augias qu'Hercule nettoie. Cet Hercule, c'est moi. Le tertre et les buissons ressortissent à Haussee, où séjournent actuellement mes enfants. J'ai découvert l'étiologie infantile des névroses et par là préservé mes propres enfants de la maladie. Le banc, à l'exception naturellement du trou des cabinets, est la fidèle imitation d'un meuble dont une patiente qui tient à moi m'a fait cadeau. Il me rappelle en quelle estime mes patients me tiennent. Ainsi, même le musée des excréments humains est susceptible d'une interprétation réconfortante.
Comment dire, vous vous trouvez que c'est une démarche nombrilique? Vous savez, quand je pense aux patients, et pratiquement à la totalité des patients que j'ai eus et que j'ai, ça commence à faire vraiment beaucoup, 35 ans de patients. Il y en a qui sont nombriliques, etc. Et d'ailleurs, on a quand même le concept de narcissisme que Freud va inventer un peu plus tard, enfin va promouvoir, et qui montre qu'il est bien conscient de ce que ça peut être et de ce que, notamment, une analyse peut nourrir un narcisse démesuré. Mais la démarche en tant que telle...
n'est pas narcissique.
Je trouve que c'est le contraire. Alors, excusez-moi. Je salue les patients, y compris moi-même, comme ex-patiente, je ne le suis pas en ce moment, et longuement ex-patiente, comme des héros. Mais je plaisante pas. De ces héros de la vie quotidienne, de leur vie quotidienne, dont je trouve ça d'un courage absolument faramineux. Parce que d'accord, ça a des choses agréables, on s'occupe de vous 3 fois, 4 fois, 2 fois par semaine. Vous croyez que c'est suffisant pour faire une vie et pour qu'on se tape un truc aussi dur et lent et passionnant, bien sûr? Passionnant, pas pour tout le monde. Il y a des gens qui trouvent pas ça passionnant. C'est formidable quand ils trouvent ça passionnant, ils restent et ils continuent. Donc ils essayent d'aller plus loin dans cette démarche qui n'a pas dû plaire à Freud lui-même quand il a commencé à exposer ses rêves. Elle n'a pas dû seulement lui plaire. Donc la comparaison avec Montaigne est très très bonne. Vous n'allez pas traiter Montaigne de narcisse.
Non, justement pas. Quand Montaigne se décrit, on pourrait dire complaisamment... Il décrit la petitesse de son sexe, il décrit ses troubles digestifs. Il va au cœur de son intimité, non pas pour s'y complaire, non pas pour la décrire, mais précisément pour aller au-delà, comme la clé qui lui permet justement de s'ouvrir sur le monde, c'est-à-dire de tourner son regard vers le monde. D'une certaine façon, comme dirait Clément Rosset, moins on se connaît, mieux on se porte. Mais phrase qu'on peut entendre de deux manières. On peut l'entendre comme... laissez la psychanalyse de côté, tout ça ne sert à rien et contentez-vous de vivre, ou bien allez au fond de vous-même, constatez que d'une certaine façon, ce qui vous empêche d'agir est largement imaginaire, et à partir de là, retournez-vous sur le monde et considérez l'existence d'autrui. Donc, on est en pleine ambivalence avec l'interprétation des rêves et avec la psychanalyse en général, qui expose la psychanalyse à la fois à un exercice narcissique éventuellement, mais qui en même temps peut l'ouvrir justement sur le reste du monde et surtout sur l'altérité.
Alors justement, puisque vous dites altérité, j'allais vous dire, autrui est déjà là quand vous vous occupez de vous. Vous êtes autrui. Vous êtes à vous-même autrui. Et la notion d'étranger qui qualifie tant de choses...
D'inquiétante étrangeté.
Après, vous aurez l'inquiétante étrangeté qui est un des textes, s'il en fallait, car ils le montrent tous, que l'autrui... Vous êtes autrui pour vous-même. Je veux dire, c'est ça aussi l'inconscient, vous comprenez? D'ailleurs, c'est ça quand Freud change sa terminologie et qu'il passe à ce qu'on appelle pompeusement la deuxième topique, c'est-à-dire où le système pour décrire l'inconscient n'est plus inconscient, préconscient, conscient, mais devient, vous vous souvenez, le ça, le moi et le surmoi. Il n'appelle plus à ce moment-là, bien qu'il emploiera toujours le mot inconscient pour définir l'inconscient, il dira ça. C'est le ça. Il vous dit en disant ça qu'il est étranger. Étranger à vous. C'est là qu'on trouvera tout à fait beaucoup plus tard, dans la 31e conférence, c'est-à-dire presque à la fin des écrits de Freud, la fameuse phrase que Lacan a commentée dans tous les sens et que d'autres ont commentée moins bien avant lui. C'était cette phrase qui en allemand se dit « Wo es war, soll ich werden ». Là, je sais, là où ça était. C'est pas le ça d'ailleurs là, c'est « es », c'est ça. Là où ça était, je doit devenir ou advenir. C'est pas le moi, c'est ich, c'est je. Ça veut dire là où ça fonctionnait.
C'est le cas de le dire.
Oui, comme ça, presque en dépit, en dehors de moi précisément. Parce que moi, c'est celui qui veut ressaisir tout en disant c'est moi. Notion terrible, hein, au fond, quand vous y pensez. C'est là-dessus qu'est le narcissisme. C'est se prendre pour moi.
C'est se prendre pour moi.
Oui.
C'est ça. Alors que quand on dit ça veut dire ça, finalement, on montre qu'on ne sort pas du ça.
Enfin.
Vous avez dit ça veut dire ça. Ça veut dire aussi que le langage de l'inconscient, rebaptisons-le inconscient un instant.
Mais on peut, si on est
voilà,
en droit.
Voilà, mais ça veut aussi dire que tout le problème que pose le rêve, et ce sont d'ailleurs ce qu'il essaie de comprendre par toutes les procédures par lesquelles il veut interpréter le rêve, condensation, déplacement, contenu du rêve manifeste, contenu du rêve latent, etc., oui. etc. Toutes ces procédures décrivent le passage extraordinairement difficile de l'indicible, de ce qui n'a pas vocation à être dit, en langage.
C'est pas indicible. Je préfère quand vous dites ça n'a pas vocation à être dit. En langage, en parole même, en l'occurrence. Hein, en langage et en parole, puisqu'en l'occurrence, l'être qui vient sur le divan, on lui dit quoi? On lui dit parler. Hein, et c'est la parole qu'on écoute, et c'est la parole qu'on interprète. Et c'est pas le rêve qu'on interprète, ça c'est évident, c'est le récit du rêve. Hein.
Vous vous souvenez que ma sœur n'a maintenant qu'un garçon, Karl. L'aîné, Otto, elle l'a perdu lorsque j'étais encore dans sa maison. Otto était mon favori. À vrai dire, c'est moi qui l'ai élevé. Le petit, je l'aime bien aussi, mais bien sûr, pas autant à beaucoup près que celui qui est décédé. Or, je rêve cette nuit que je vois Karl étendu mort devant moi. Il est couché dans son petit cercueil, les mains jointes, des cierges tout autour. Bref, tout à fait comme jadis le petit Otto, dont la mort m'a tellement bouleversée. Eh bien, dites-moi, qu'est-ce que cela veut dire? Vous me connaissez, n'est-ce pas? Suis-je une si mauvaise personne pour souhaiter à ma sœur la perte de l'unique enfant qu'elle a encore? Ou bien le rêve veut-il dire que je souhaiterais que Karl fût mort plutôt que Otto, que j'ai aimé tellement plus?
Il y a un chapitre dans l'interprétation des rêves sur la mémoire dans le rêve.
Oui.
Où finalement, Freud est un disciple de Lavoisier qui explique que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme dans le rêve. Ce qu'on croit rêver par hasard, en vérité, ne correspond pas à un hasard. Il n'y a pas de hasard dans
Absolument.
Le rêve.
Il n'y a pas de hasard dans la vie psychique.
Il n'y a pas de hasard dans le rêve. Mais le système demeure inachevé. On peut quand même pas le comprendre in extenso. Mais il n'y a pas de hasard dans le rêve. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, pour le coup cher aux empiristes, selon laquelle, et c'est d'ailleurs une évidence, nous ne rêvons jamais de quelque chose que nous n'avons jamais vu. Quand bien même nous y rêverions par condensation, par déplacement, c'est-à-dire par représentation décalée, de toute façon, ce dont nous rêvons, d'abord l'objet du rêve est un objet qui nous est familier, sans quoi on n'y rêverait pas, et puis surtout, ce à quoi il nous renvoie est quelque chose que nous avons fatalement vécu. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
On l'a vécu, mais on prend les pièces et les morceaux de ce qu'on a vécu, pour en faire une nouvelle réalité, quand même. C'est comme une œuvre. Ceci dit, vous savez que on n'épuisera jamais le rêve, jamais le sens d'un rêve. Et d'ailleurs, Freud l'écrit, là. Il le dit à propos de ce qu'il appellera l'ombilique du rêve, hein, c'est-à-dire ce qui restera, ce qui est lié à l'inconnu, qui restera inconnu. Il l'appelle bien l'inconnu, à cet endroit-là. Il l'appelle pas l'inconscient. Mais il restera toujours quelque chose, un noyau du rêve. On n'analysera jamais le rêve de part en part. Donc, c'est une liberté d'ailleurs extraordinaire de rêver. Je veux dire, c'est pas comme d'arriver avec un gros sac plein de matériaux et on va sortir tous les matériaux, puis quand il n'y en aura plus, ce sera fini. Jamais. Du reste, oui, c'est pas un lieu de confidence. Moi, j'ai fini ma propre analyse comme ça. Je savais bien qu'on allait vers la fin. Et je racontais un rêve que je ne vous raconterai pas, parce qu'il n'aurait d'intérêt pour personne, et qui représentait une réalité que j'avais composée, un objet qui ne ressemblait à rien, et qui en plus portait un nom dans une langue étrangère, qui n'était aucune de mes langues, j'en connais plusieurs, aucune. Un mot, après j'ai pendant des mois cherché dans différents dictionnaires, je me suis dit j'ai dû voir ce mot, pas du tout. J'avais composé ce mot, qui est resté
comme sans... Freud le fait de temps en temps d'ailleurs, il y a le mot Norregdal, je ne sais pas à quoi il correspond.
Par exemple, vous voyez, je ne me souvenais même pas que j'aurais pu me comparer à Freud. Non, mais on fait tous ça. Les uns, c'est avec des mots, les autres, c'est avec pas des mots. Donc là, il y avait l'objet qui était impossible à identifier, avec toutes les associations que vous voudrez. On ne pouvait pas l'identifier. Le nom qui désignait cet objet, que je ne connaissais pas, que je ne connais pas, que je ne connaîtrai pas, enfin on ne sait pas, jusqu'à mon dernier souffle, je peux avoir des surprises, mais j'en doute. Et l'analyste que j'ai trouvé très futé, d'abord parce que je l'aimais beaucoup, mais je l'ai trouvé futé tout de suite, bien que j'étais déconcertée, m'a dit, on va en rester là pour aujourd'hui, et quand je me suis levée, il m'a dit, on va en rester là. Et je lui ai dit, mais j'ai pas compris le mot et je ne sais pas ce qu'est la chose. Il m'a répondu, c'est avec ça que vous allez partir.
Ça.
Ça. Écoutez, ça fait plusieurs dizaines d'années. Je lui en suis encore reconnaissante.
Donc il vous a laissé partir sur une énigme.
Mais et ça voulait dire énigme il y a, et rester avec l'énigme, c'est ce qui peut vous arriver de mieux.
Je suis en blanc, les yeux fermés, dans une pièce ensoleillée, dans les fenêtres grandes ouvertes, ne laisse passer que la lumière. Le sol a disparu sous le soleil. Il ne reste qu'un piano que j'effleure en souriant. La paume virevolte et tourne sur elle-même, des quatre doigts qui enjambent le pouce et puis descendent en sautillant. Parfois la main s'arrête, c'est un accord. Et hop, elle repart, avance en reculant, d'octave en arpège, jusqu'à la dernière note, la plus aiguë. Je joue, sans y penser, la mélodie d'un cœur à prendre. Mozart, peut-être, sûrement. J'ouvre les yeux. Ce sont les touches qui me touchent, c'est le piano qui joue de moi. Blanc, noir, dièse, blanc. On dirait la peau de ce jeune homme, la moitié de mon âge. Les yeux sombres, les cheveux en bataille sur la terrasse, le matin. Docteur, je sens bien que c'est lui. C'est lui dont il s'agit. C'est lui dont je rêve. Et pourtant, ça n'est pas du tout lui, mon amant.
Vous jouiez de quelle main?
De la gauche.
De la main gauche, uniquement.
Oui.
C'est quoi, la main gauche?
Comment c'est quoi?
Au piano, la main gauche, c'est quoi?
L'accompagnement.
L'accompagnement.
Oui, l'accompagnement.
L'accompagnement.
Oh, non, mais de quoi je me mêle?
Ça, c'est vous qui le dites.
Dans l'interprétation des rêves, par exemple, il fait deux pages extraordinairement croustillantes et désopilantes sur les équivalents sexuels.
Oui.
Alors il dit, marche, échelle et escalier sont des représentations symboliques de l'acte sexué dans le rêve. Des parois lisses auxquelles on grimpe, des façades de maisons le long desquelles on se laisse glisser, correspondent à des corps humains debout, répétant vraisemblablement dans le rêve le souvenir du petit enfant qui grimpe après ses parents et après les personnes qui prennent soin de lui. De même, table avec le couvert mis et planche sont des femmes. Il dit un peu plus tard, la table et le lit résument tout le mariage. Le chapeau d'une femme doit souvent être interprété avec certitude comme organe génital. Et dans les rêves des hommes, on trouve souvent la cravate comme symbole du pénis. Bien sûr, il y a des atténuations linguistiques. Hein. Le langage, le fait dit, on reconnaît souvent, on trouve souvent. C'est très important.
Oui.
Il atténue constamment ce genre d'analogie. Mais en même temps, il construit un certain nombre d'analogies. Alors, où est l'énigme? Dans le fait que tel ou tel élément de la vie quotidienne ont des équivalents sexués dans le rêve, sexuels dans le rêve. Est-ce que l'énigme, c'est une théorie qui, finalement, dont ses adversaires diraient qu'elle ne prétend qu'à elle-même, et qui arbitrairement accole un équivalent sexuel à un objet de la vie courante, etc., etc. Non pas que le sexe ne soit pas un objet de vie courante, mais, vous voyez. Et, ou bien, est-ce que l'énigme n'est pas dans les moments où il atténue son propos pour dire souvent, presque, parfois, fréquemment, c'est-à-dire tous ces adverbes qui, finalement, le mettent à distance délibérément de la vérité et donc préservent une zone d'incertitude.
Oui. Alors là, il y a un paradoxe de Freud. Vous allez vous souvenir qu'il a énormément critiqué Jung. D'abord, il l'a aimé, puis après, il l'a critiqué. Il critiquait Jung en particulier sur le symbolisme du rêve. Et il disait, on ne peut pas faire une clé des songes. Il l'écrit déjà là, c'est pas sur Jung. Il l'écrit déjà dans l'interprétation des rêves. Pas de clé des songes. Pourquoi? Parce que, justement, là, il fonde lui-même la libre association sur les suggestions d'une patiente. Hein. Vous savez, c'était Amy von M, je crois, qui lui avait dit, mais enfin, laissez-moi parler. Et là, il a appris à ne pas la harceler de questions, mais elle a laissé parler.
Elle aurait pu lui dire de quoi je me mêle.
Mais c'est ce qu'elle lui disait, oui, d'une certaine façon. Donc, il critique la clé des songes, dès ici, là, il critique pas encore Jung. Il dit, il n'y en a pas, parce que ce qui donne la clé, ou les clés, parce qu'il n'y en a jamais une seule, heureusement, ce sont les libres associations du patient. Donc, si lui, il associe la cravate à un sexe féminin, c'est pas un sexe masculin.
Ah oui, d'accord.
Le patient ou la patiente. Il n'y a pas de clé des songes parce que chaque patient est singulier, chaque association est singulière. Après, ça peut faire des systèmes d'associations pour celui qui écoute. Il se fait une sorte de dialecte, qui est un bon mot là, un dialecte de ce qu'ils sont en train de parler tous les deux, le patient et l'analyste. C'est du moins comme ça que je le vois. Alors, le patient parle son dialecte et l'analyste essaye de parler le dialecte qui va devenir le dialecte qu'ils peuvent échanger. Même si l'analyste ne dit que quatre mots, ils ont, à mon avis, un dialecte quand il y a une analyse qui a lieu. Donc, on ne peut pas faire de clé des songes. Et là, dans le passage que vous venez de lire, Freud fait une chose contradictoire parce qu'il fait une liste. Alors, c'est tout à fait contradictoire avec ce qu'il pense de l'absence de clé des songes. C'est pour ça que vous me le dites. Et en même temps, vous avez eu absolument raison d'avoir fort subtilement relevé les adverbes qui atténuent, parce que c'est ainsi qu'il refuse la clé des songes. Parce qu'en même temps, on peut dresser des sortes de, je dirais pas de statistiques, sûrement pas, mais de régularité. C'est-à-dire, on peut dire, oui, c'est assez fréquent que la cravate représente le sexe masculin. Assez fréquent, ça veut dire pas toujours. En même temps.
Mais alors, que vaut une régularité dont, finalement, la seule pertinence est statistique?
Elle est statistique, sauf que Freud ne dirait pas et ne dit nulle part qu'elle est statistique. Mais il,
non,
note,
mais sauf que c'est
il note le souvent. Alors, bon, et d'abord, il y a une contradiction. On ne va pas se le priver de la remarquer. Ensuite, elle est quand même atténuée, puisqu'il l'atténue, c'est-à-dire lui-même se rend compte qu'il ne peut pas dresser une liste comme ça. Il va d'ailleurs devenir de plus en plus rigoureux là-dessus, c'est-à-dire il fera de moins en moins des clés du songe. De plus en plus, c'est la parole du patient, même si on ne la prend pas au pied de la lettre, qui indiquera quelque chose qui est en train de se passer dans les transformations que subissent les objets ou les morceaux d'objets dans les rêves. D'accord?
D'accord, mais est-ce que dans ces conditions, s'il y a une contradiction, est-ce que cette contradiction n'est pas celle de l'ensemble de l'interprétation des rêves?
Ça ne me dérange pas.
Et de la psychanalyse elle-même,
oui.
Qui serait à la fois d'être une discipline du singulier, c'est-à-dire une écoute de chacun, une façon d'entendre une parole toujours singulière, et donc à chaque fois...
Le système divan-fauteuil, c'est ça.
Voilà. Alors, le système divan-fauteuil.
Dans la pensée, ça devient autrement.
Bien sûr. Mais le système divan-fauteuil, oui. Donc, votre métier.
Mon métier.
Votre métier. À chaque fois que vous avez un patient nouveau, vous êtes confronté à une idiosyncrasie totalement neuve, une individualité inédite,
oui.
Singulière, aux ramifications inattendues. Forcément, oui. C'est un individu.
Absolument.
Et en même temps, vous lui proposez une méthode qui, d'une certaine façon, alors, selon certains marche, selon d'autres ne marche pas, ou avec certains fonctionne, avec d'autres ne fonctionne pas, mais est-ce que la tension de la psychanalyse ne vient pas justement du fait qu'elle est à la fois une cure qui prétend valoir, sinon universellement, du moins fréquemment, pour reprendre un adverbe de Freud, souvent, et la singularité toujours reconnue, toujours renouvelée, le risque nouveau d'un nouveau patient à chaque fois?
C'est un risque épatant. Il faut souhaiter que le patient et l'analyste puissent prendre le risque, ce qui est très difficile. Le patient est invité à le prendre, mais si l'analyste ne le prend pas, ça ne suffit pas.
Donc, mais quel est ce risque pour l'analyste, hein? Est-ce que le risque va jusqu'à remettre en cause, non pas la psychanalyse elle-même, si vous voulez, mais un certain nombre d'axiomes qui seraient ceux de la psychanalyse? Jusqu'où va-t-on? dans cette prise de risque. Est-ce que vous avez déjà rencontré des patients qui, à votre sens, sont imperméables au complexe d'Œdipe ?
Je ne peux pas dire ça. Je peux dire que j'ai rencontré des patients où l'affaire de Édipienne, je déteste complexe d'Édipe. Ça existe dans le texte, donc c'est pas un péché de votre part de l'employer. Je crois que je l'emploie pratiquement pas. Alors c'est pas que je m'en vante, mais c'est parce que ça me gêne.
On le trouve pas dans vos textes.
Donc à mon avis, vous le trouverez nulle part. Mmh. Et si je l'ai écrit, c'est vraiment par inadvertance. Et si j'ai l'occasion de me recorriger, je l'enlèverai.
Bon, donc l'affaire Œdipienne.
L'affaire Œdipienne, je sais pas comment le dire. C'est à la fois la singularité. C'est tout à fait votre comparaison avec Montaigne est bonne, décidément. Je me la suis souvent faite, mais aujourd'hui je n'y aurais pas pensé. C'est vous qui y pensez. C'est à la fois singulier et, je dirais pas universel, mais en tout cas pluriel. Je veux dire, après tout, chaque individu que nous sommes appartient à une espèce, homo. L'espèce homo. À une culture. Ça veut pas dire qu'on est totalement aliéné à ça, mais ça veut quand même dire qu'on appartient. Je veux dire, on est unique, mais on n'est pas unique au monde. Hein. Et je ne dis pas ça juste pour montrer notre modestie.
Pas seulement unique, donc c'est singulier, disons.
On est singulier, mais on n'est pas absolument singulier. Sur le divan, on est absolument singulier.
Alors, justement.
Mais à partir de là, si on réfléchit, si on théorise, et même si le patient finit par s'auto-théoriser en partie, c'est son droit. Hein, il se rattache au fonctionnement de son humanité, de sa culture, etc. L'analyse faisant qu'il se désaliène et qu'il ne lui appartient pas corps et âme.
Merci Marie Moscovici pour cette conversation. Je rappelle que vous animez la revue L'Inactuel. Je signale aussi que vous êtes l'auteur, entre autres, d'un ouvrage intitulé Le meurtre et la langue, paru chez Métellier en 2001. Vous trouverez L'interprétation des rêves dans le 4e volume des œuvres complètes de Freud aux Presses universitaires de France. Et je vous recommande également une excellente biographie de Freud par Peter Gay, parue chez Hachette en 1991, mais qui existe aujourd'hui en livre de poche.